Europa Voice numéro 75 déjà, et comme à chaque fois, nous sommes avec Nathanaël Bloch. Salut Nathanaël.
Salut Christophe.
75 déjà, ça avance. Et on parle toujours du Covid en Europe, et là, il est peut-être temps de faire un point avec la situation en Europe, puisque il y a quasiment, si ce n'est tous les pays européens qui ont commencé leur vaccination, et bien il y a des résultats un petit peu mitigés par rapport à chaque pays, parce que la politique est peut-être un petit peu différente. Parlons-en un petit peu justement, comparons un petit peu les pays européens par rapport à la situation aujourd'hui sanitaire en Europe.
Alors tout à fait, Christophe, ce qui est intéressant de discuter par rapport au vaccin contre le Covid et à la campagne de vaccination contre le Covid-19, c'est comment en fait on est arrivé maintenant à une situation où on n'est plus dans l'analyse de cette campagne de vaccination, mais on se demande comment en fait l'Europe va tenter de combler le retard qu'elle a déjà accumulé dans cette campagne de vaccination. Et c'est intéressant parce qu'on est presque, Christophe, à une troisième phase. La première phase, on avait vu hein, l'année dernière ensemble lors d'un épisode précédent d'Europa Voice, c'est que l'Europe avait mis du temps à réagir et puis d'une certaine façon, on ne lui en avait pas voulu parce que c'était un phénomène nouveau. Et puis il y a eu au printemps dernier, été dernier, des initiatives communes où on avait justement vu l'Europe prendre le leadership, notamment sur l'achat des vaccins. Donc on s'était dit que l'Europe avait compris de ses erreurs passées par rapport au Covid-19 et à la campagne de vaccination. Et puis là, on est dans cette troisième phase où il y a des chiffres qui sont extrêmement parlants. Hein. On a 6,1% des Européens qui ont reçu au moins une injection, contre 17,1% des Américains, 32% des Britanniques et 57% des Israéliens. Donc on est dans cette troisième phase où on se dit bah finalement, alors que l'Europe avait plutôt bien géré ou en tout cas donné des signes très positifs sur des initiatives communes, on est dans cette troisième phase où il va falloir se demander bah, comment l'ensemble des pays européens vont pouvoir combler ce retard gargantuesque dans la campagne de vaccination.
Alors, est-ce qu'on peut analyser, pas forcément tous les pays, mais pays par pays, il y a quand même des grosses différences sur l'approche justement de la distribution de ce vaccin. On sait qu'en France, ça a été un petit peu polémique au début, ça a pris vraiment du temps à se lancer, alors qu'en Allemagne, il y avait les vaccinodromes. Enfin, pourquoi il n'y a pas une politique européenne commune sur ce plan de vaccination justement?
Alors, Christophe, c'est une très bonne question, comme à chaque fois. Alors, il y a déjà, ce qui est intéressant de signaler, c'est que finalement, les fractures européennes qu'on retrouve dans chaque discussion, dans chaque débat en Europe, hein, autour, par exemple, du budget, autour du Green Deal, toutes ces fractures-là qu'on retrouve entre les pays de l'Est, les pays frugaux, les pays historiques de la construction européenne, bah, finalement, il n'y a pas de raison qu'on ne les retrouve pas dans les campagnes de vaccination. Alors pour illustrer ça, je vais vous donner juste un exemple. Quand on avait évoqué justement le fait que les pays européens allaient s'approvisionner, pardon Christophe, de certains vaccins, hein, le Pfizer, le AstraZeneca, et puis ne pas se tourner du côté des vaccins chinois et russes, ben on a vu que même cette initiative-là, elle a été mise à mal. Alors, pas seulement avec les pays extérieurs qui sont aux portes de l'Europe. Hein. Par exemple, moi, je trouve que l'exemple ukrainien, il est très parlant. C'est que l'Ukraine avait toqué à la porte de l'Europe pour être intégrée dans cette stratégie commune par rapport à la vaccination. Et puis finalement, faute de réactivité de l'Europe, frilosité de l'Europe pour les pays qui ne font pas partie des 27, l'Ukraine s'est évidemment tournée vers d'autres voisins plus proches, comme la Russie. Et donc, c'est là où on voit aussi que c'est un rendez-vous manqué par rapport aux frontières immédiates externes de l'Europe. Mais même si je mets ça de côté, Christophe, si je regarde à l'intérieur des 27, cette campagne de vaccination, elle met vraiment en exergue des fractures internes. Alors, on va prendre deux groupes de pays, par exemple. On a notamment ceux qu'on appelle les pays frugaux, hein, l'Autriche, le Danemark, etc. Il y a eu une initiative, il y a quelques jours, on a les dirigeants du Danemark et de l'Autriche qui sont allés à Jérusalem pour rencontrer les autorités israéliennes et imaginer mettre en place une coopération dans la production de vaccins. Donc évidemment, ça va à l'encontre de toutes les idées de solidarité intra-européenne, que vous ayez deux membres du club des 27 qui font un voyage par leur initiative en Israël. Alors effectivement, Israël est le champion de cette campagne de vaccination, mais ça montre bien cette mise à mal de la solidarité européenne. Et puis un autre exemple, hein, avec les pays, cette fois plutôt d'Europe de l'Est, d'Europe centrale, hein, ce qu'on appelle le groupe de Visegrad, où aussi on a vu hein, une rupture d'une certaine façon de cette stratégie européenne de l'unité vaccinale, bah, tout simplement parce que Christophe, ça va pas assez vite, qu'il y a une situation sanitaire qui s'est dégradée dans ces pays-là. Alors, vous avez des pays qui sont foncièrement anti-russes, comme la Pologne, qui sont allés toquer à la porte chinoise, mais vous avez d'autres pays, comme la Slovaquie, comme d'autres pays d'Europe de l'Est, qui sont allés, alors le Tchèque, pardon, qui sont allés voir du côté russe aussi comment s'approvisionner et avoir plus de vaccins. Donc, on le voit, hein, vraiment, on a des fractures internes qui ressurgissent aussi sur ces campagnes vaccinales à travers l'Union européenne.
Mais tout ça, en fait, ça a un impact énorme sur la politique extérieure de soft power européen. Cette idée que une certaine diplomatie à l'européenne peut être faite dans un groupe uni qui peut avoir une influence mondiale, aujourd'hui, ça va forcément avoir un impact quand on voit qu'à l'intérieur du groupe, même pour des choses comme la vaccination, malgré les erreurs qui ont été faites au premier volet, on refait les mêmes erreurs au deuxième volet, ça va forcément impacter entre guillemets, le soft power européen.
Ah bah ça a des conséquences dramatiques, hein, Christophe, sur même le modèle, hein, européen, sur cette idée de construction politique, parce qu'effectivement, encore une fois, l'Europe n'a pas été capable d'être dans cette troisième phase de la campagne de vaccination unie et solidaire, et surtout, elle a montré, j'allais dire, presque les limites bureaucratiques de cette construction politique, un des éléments primordiaux qui explique aussi le retard de l'Europe dans cette campagne de vaccination, c'est véritablement le principe de précaution tiré à l'extrême, cette prudence, cette bureaucratie, qui font que l'Europe, qui de toute façon historiquement est assez allergique à la culture du risque, a d'abord voulu faire un vrai travail de pédagogie pour expliquer à sa population les vaccins, etc. Mais en attendant, on n'a pas du tout eu la mise en place d'une logistique efficace. Et puis un des bons exemples aussi pour illustrer ces principes de précaution et cette non-réactivité, c'est ce qui s'est passé sur l'AstraZeneca, où d'abord on avait eu, et notamment je tire un peu la sonnette d'alarme du côté français, on avait eu une réticence à injecter ce vaccin, ces doses de AstraZeneca à des populations âgées, alors que dans une partie de l'Europe, on disait que c'était vrai. Donc c'est aussi compliqué au sein de l'opinion. Finalement, pourquoi est-ce qu'un vaccin AstraZeneca, il serait bon pour une population de plus de 70 ans, je ne sais pas moi, en Hollande ou en Belgique, et pourquoi il ne serait pas bon en France? Et puis après, surtout quand vous revenez sur cette décision-là, c'est-à-dire quand vous dites que finalement, en fait, ce vaccin, il peut aussi être inoculé à des personnes de plus de 70 ans, forcément, vous avez créé quelque chose dans l'imaginaire d'une population qui déjà est tiraillé par certains mouvements anti-vax. Donc, vous voyez, il y a ce principe de précaution, cette non-réactivité. Et puis, vous avez aussi tout simplement des processus qui sont trop lents dans le fait d'approuver les vaccins. Il y a trop, encore une fois, il y a trop de bureaucratie, il y a trop de processus de validation. Et même par rapport à la mise sur le marché, on avait vu, hein, la procédure qui est une procédure d'urgence qui s'appelle l'AEM. Celle-là, elle n'a pas été mise en place en Europe. On n'a pas considéré à ce stade-là qu'il fallait la mettre en place. Donc, on est passé par les tuyaux classiques pour approuver, pour donner son tampon à la mise sur le marché et puis au déploiement de vaccins. Mais c'est peut-être une façon différente qu'il fallait voir dans cette campagne de vaccination. Parce que c'est un moment historique, c'est un moment jamais vu auparavant. Et puis, on le voit dans les pays qui ont bien marché, Israël s'en vante, hein, le Premier ministre Benjamin Netanyahu lui-même, hein, c'est une guerre éclair, c'est une organisation, alors il y a un historique d'armée, etc. Mais c'est la logistique qui est mise en place, ce n'est pas une logistique habituelle d'une campagne de vaccination lambda. Donc voilà, ça explique effectivement un peu pourquoi le soft power européen, ou en tout cas l'influence européenne, en prend aussi un coup avec cet échec pour l'instant de la campagne de vaccination en Europe.
Alors après, il faut mettre quand même le bémol juste sur la campagne israélienne. Il faut quand même rappeler qu'ils ont passé des accords avec Pfizer que l'Europe n'a pas passé, des accords financiers, mais également des accords de partage de données qu'auraient de toute façon difficilement pu passer l'égide européenne.
Oui, Christophe, je suis d'accord avec vous. Hein, c'est évidemment le fait, hein, je rappelle juste le chiffre qui est quand même intéressant, on a 57% de la population israélienne qui a reçu au moins une dose de vaccin contre 6% en Europe et contre 5% en France. Et on a 43% de la population européenne qui est déjà complètement vaccinée, hein, donc quasiment un Israélien sur deux, versus 3% en Europe et un peu moins de 3% en France. Donc il y a quand même des grandes disparités. Alors là où vous avez raison, Christophe, c'est qu'effectivement, cette disparité, eh ben, elle s'explique. Elle s'explique par des jeux de négociation. Et puis, c'est évident que si Israël a été prête à mettre le prix fort pour acheter des vaccins Pfizer, a été prête aussi à faire des partenariats avec le laboratoire pour après exploiter les données et pour vérifier l'efficience du vaccin, bah, il est évident que oui, ils vont avoir un meilleur approvisionnement. Mais ça, c'est finalement, ça rejoint ce qu'on disait il y a quelques instants, Christophe, sur le principe de précaution et les processus de validation. On peut pas tout avoir. On peut pas avoir des mécanismes utilisés de manière ordinaire au niveau de l'Europe où on va avoir des procédures qui vont prendre plusieurs mois, on va avoir plusieurs niveaux de validation, etc. Et en même temps, se demander pourquoi on n'a pas le même nombre de vaccins que les autres, etc. La seule chose qui me fait dire que on est sur la bonne voie, en train de changer et peut-être d'avoir une approche un peu plus agressive, c'est ce qui s'est passé. Et puis on est concerné par ça, c'est ce qui s'est passé avec l'Australie. C'est quand Mario Draghi, hein, qui est le nouveau politique, pardon, à la tête du gouvernement italien, à l'ancien banquier central, quand il a dit à AstraZeneca, qui a dit qu'ils livreront moins de vaccins prévus à l'Europe, elle a dit, bah, dans ce cas-là, on va bloquer aussi une partie des exportations des vaccins AstraZeneca à destination de l'étranger, et notamment de l'Australie. Donc, il y a effectivement un rapport de force qui doit être établi, mais parce que, encore une fois, ce n'est pas une situation ordinaire, c'est une situation extraordinaire, et c'est normal. Donc, quand vous êtes aussi un laboratoire, eh ben, dans certains cas, vous alliez au plus offrant, que ce soit au niveau du prix, que ce soit au niveau des partenariats, que ce soit par rapport à l'exploitation de données. Donc, je suis d'accord avec vous, il faut mettre des... Je ne sais pas si c'est des bémols, mais il faut pouvoir expliquer pourquoi on a des pays. Ce n'est pas que Israël, hein, c'est les Émirats Arabes Unis aussi, c'est le Royaume-Uni. Hein, le Royaume-Uni, il y a encore quelques... moi, Christophe, ils étaient dans le club des 27, enfin à l'époque, le club des 28. Il y a 33% de la population du Royaume-Uni qui a déjà reçu au moins un vaccin versus, encore une fois, 3 au niveau de l'Europe. Donc ça s'explique, ça aussi, il faut l'expliquer culturellement, il faut comprendre pourquoi. Alors, on a un Royaume-Uni qui, lui, est capable de faire la course en tête des pays européens et assimilés, alors que l'Union européenne est à la traîne.
Est-ce qu'il y a une voie de sortie pour l'Europe, en fait ? Est-ce qu'il y a une solution, ou est-ce que forcément, l'Europe va finir un peu à la traîne et peut-être même se faire rattraper par des pays comme l'Australie, où la campagne de vaccination vient tout juste de commencer ?
Alors, je crois, Christophe, vraiment, encore une fois, que l'Europe est en train de corriger d'une certaine façon toutes ces insuffisances. Hein. Le premier exemple, c'est celui qu'on a évoqué il y a quelques instants, c'est ce point sur la table de l'Italie qui a dit, bah non, AstraZeneca, laboratoire, si vous n'êtes pas capable de respecter vos engagements par rapport à la livraison des vaccins en Europe, dans ce cas-là, on bloque aussi une partie des doses que vous aviez prévu d'envoyer à l'étranger. Tout simplement, ça veut dire quoi ? Ça se traduit comment ? C'est l'Europe qui s'affiche face au laboratoire comme unie à défendre ses intérêts. Et ça, c'est important d'un point de vue de la construction politique, que l'Europe soit capable de faire ça. Donc je crois qu'il y a déjà ce mouvement-là de montrer que l'Europe fait bloc pour protéger sa population. Le deuxième élément aussi, c'est qu'on sait qu'il y a un travail de plus en plus main dans la main entre la Commission européenne et les industriels, justement pour régler ces problèmes de production, et notamment d'anticiper la vaccination par rapport aux variants qui apparaissent. Il y a des projets de partenariat. On en avait déjà parlé lors d'un épisode précédent, Christophe. Il y a le partenariat avec Sanofi qui va mettre en fiole le vaccin développé par BioNTech, et il y en a d'autres qui sont à venir. Donc il y a aussi des partenariats que l'Europe est en train de monter. Et puis un troisième élément, hein, on a parlé de cette procédure d'urgence de l'AEM, l'autorisation de mise sur le marché. On sait aussi que la Commission, alors qu'elle était frileuse jusqu'à présent, pour justement lutter contre ces variants, va sûrement mettre l'accélérateur et ouvrir cette procédure d'urgence pour permettre à ces vaccins d'être sur le marché, d'être inoculés chez les patients, et donc justement d'anticiper la propagation de ces variants. Et puis, il y a quand même un dernier élément qui est un élément d'espoir pour les pays européens et pour les pays dans le monde, c'est qu'on va avoir de plus en plus de vaccins sur le marché. On a parlé évidemment du Pfizer, du Moderna, de l'AstraZeneca. On sait aussi qu'il y a le Johnson & Johnson qui va arriver bientôt. Et donc tout ça, tous ces éléments-là, Christophe, dans la balance, fait que l'Europe, en tout cas, affiche un optimisme par rapport à son objectif, qui, rappelons-le, est d'avoir vacciné d'ici l'été 70% de la population adulte. Pourquoi, Christophe? Parce que tout simplement, Ursula von der Leyen et les dirigeants européens veulent absolument sauver la saison d'été, la saison touristique. Donc voilà, on est quand même, j'allais dire, on est en train de redresser la barre. Il y a des motifs d'espoir pour que l'Europe, après avoir raté cette troisième phase, sur la quatrième phase, solidifie un peu et puisse retrouver un chemin serein et d'unité sur cette campagne de vaccination.
Alors d'ailleurs, on va en parler dans quelques instants avec le passeport vaccinal. Mais une dernière question par rapport à ça. Vous avez cité tous ces laboratoires. Il manque les laboratoires français dans tout ça. Vous avez touché un petit peu sur Sanofi, mais le laboratoire Pasteur, par exemple, qui sont à la base de la création de ce qui est un vaccin, à l'origine, l'invention des vaccins. Aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas une claque pour la recherche française au grand jour de voir que chaque pays un petit peu développé a réussi à sortir un vaccin et qu'en France, on n'a pas réussi à sortir un vaccin aussi rapidement avec le Covid? Donc du coup, ça met un petit peu un coup de projecteur sur la lourdeur administrative peut-être et le manque d'investissement dans la recherche du modèle français.
Alors, je crois que sur l'argent investi dans la recherche en France, je crois que cette question-là, elle précède l'arrivée du Covid, et puis elle survivra une fois que le Covid sera parti. Mais effectivement, encore une fois, de la même manière que je trouve que le Covid-19 finalement montre les fractures européennes qui se font jour classiquement entre les pays de l'Est, les pays frugaux, etc. Je crois que cette crise du Covid, elle montre aussi effectivement les pays qui ont mis de l'argent dans la recherche et les pays qui sont à la traîne, mais ça ne fait qu'amplifier, en fait, si vous voulez, les disparités qui existaient déjà avant. Après, je serais un petit peu plus mesuré sur cette question de la recherche française, parce que, et c'est là tout le paradoxe, c'est que, alors effectivement, on peut le dire, on n'a pas vraiment de vaccin français. Par contre, on a des dirigeants français à la tête des...
De Moderna, par exemple.
Voilà, à la tête de laboratoires comme Moderna. Donc, on a des dirigeants français qui se sont expatriés à l'étranger pour poursuivre leur carrière. Donc c'est pour ça que je trouve qu'il y a un effet amplificateur de cette crise du Covid et de cette campagne de vaccination. C'est que les mêmes défauts qu'on voyait avant déjà par rapport à la recherche française, finalement, ils sont simplement amplifiés. Il faut quand même le rappeler, on a un commissaire européen chargé du marché intérieur qui est Thierry Breton. Donc les projecteurs sont sur lui parce que là, on a bien vu qu'il y avait un enjeu logistique de production industrielle. Donc on a un commissaire cocorico français. On a des patrons de laboratoires comme Moderna, Stéphane Bancel qui est à Boston dans le Massachusetts. Donc on retrouve quand même nos Français, mais on les retrouve en dehors du cadre à la fois professionnel et décisionnaire français. Donc encore une fois, je trouve que c'est assez intéressant parce que ça ne fait qu'amplifier, en fait, ce qui existait déjà avant par rapport à la recherche française. Alors, est-ce que ça va permettre de changer la donne après? Je ne sais pas. Ce sera à voir. Ce qui est sûr, c'est que ça devrait en tout cas solidifier un peu l'unité européenne. Parce que on le voit, par rapport au vaccin, encore une fois, chinois, et par rapport au vaccin russe, où il y a des enjeux d'influence, notamment par rapport aux pays de l'Est, même par rapport aux Émirats arabes unis, etc. On le voit, l'Europe, pour l'instant, a manqué cette marche-là. Et ça, c'est important qu'elle prenne conscience que c'est pas seulement de la campagne vaccinale dont il s'agit, c'est de la capacité du bloc européen, de la construction européenne à pouvoir peser sur la marche du monde après le Covid.
Et parlons maintenant, et c'est un lien, c'est vrai que ce passeport vaccinal est pas mal débattu à travers le monde, débattu en Europe. En Europe, il y a des gens, des pays qui sont pour, comme la Grèce, des pays qui posent quand même pas mal de questions, la France en tout cas. On en est où de ce passeport vaccinal? Parce que ça semble être un petit peu la clé pour pouvoir sauver un peu l'été européen, les vacances, l'économie du tourisme, et relancer un petit peu tout ça. Ça va être dur, compliqué de faire sans un passeport vaccinal. Par contre, comme je viens de le dire, il y a des pays qui se posent des énormes questions par rapport à la mise en place d'un passeport vaccinal comme ça.
Alors oui, alors ce passeport vaccinal, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui a émergé dans le débat public, dans le débat de santé publique depuis le début de cette crise, en tout cas depuis le début de la campagne de vaccination, qui, rappelons-le, en France, a débuté fin décembre 2020. Mais là, il y a vraiment eu un coup d'accélérateur parce que la Commission européenne, elle a annoncé le lundi 1er mars qu'elle allait présenter justement un projet de passeport vaccinal dans le courant du mois. Alors, vous l'avez évoqué dans votre question liminaire, Christophe, on a effectivement tout un tas de pays du sud de l'Europe qui sont des fervents soutiens de ce projet de passeport vaccinal pour effectivement hein, cette raison assez simple qui est que la saison touristique qu'ils n'avaient pas pu avoir l'année dernière, ils aimeraient bien la sauver cet été. Et donc, au rang desquels ces pays, vous trouvez la Grèce, qui d'ailleurs a été le premier pays, pardon, Christophe, en Europe à se prononcer en faveur d'un tel système. Mais vous avez d'autres pays du sud comme l'Espagne, Malte ou le Portugal qui soutiennent cette initiative. Et ce qui est intéressant, et c'est là on voit encore hein, qu'on en parlait il y a quelques instants, que le Covid ne fait qu'amplifier les fractures européennes qui existaient déjà. On le voit, hein, comme on met du temps à trancher sur cette question du passeport vaccinal, eh ben vous avez déjà des initiatives qui sont prises individuellement par les pays pour justement revigorer, refaire naître un petit peu le tourisme et les échanges de personnes entre pays. Si je reprends l'exemple de la Grèce, en attendant d'avoir ce passeport vaccinal, la Grèce, elle est en train de négocier, Christophe, des accords bilatéraux avec des pays extra-communautaires pour justement encourager le tourisme. Eh ben, on en parlait il y a quelques instants, Israël, où vous avez une majorité de la population qui a déjà reçu sa première dose et on se dirige vers plus de 50% d'Israéliens complètement vaccinés, bah vous avez un accord bilatéral qui permet en fait aux Israéliens de se rendre librement en Grèce s'ils sont immunisés. Vous avez d'autres exemples, d'autres dispositifs qui sont mis pour l'instant en place individuellement par les pays, par exemple le Danemark et la Suède qui ont mis en place des certificats électroniques qui sont destinés au voyage à l'étranger de leurs concitoyens. Donc encore une fois, l'Europe, l'Union européenne a mis le pied sur l'accélérateur par rapport à cette question du passeport vaccinal, mais pour l'instant, en attendant d'avoir et de voir une efficacité au niveau de l'Europe de cette question essentielle pour la liberté de mouvement des biens et surtout des personnes, et ben vous avez des initiatives individuelles qui sont prises par les pays européens.
Il y a même des initiatives au niveau des compagnies aériennes. Je crois que les compagnies des États Émirats Arabes Unis, pour ne pas les nommer, voulaient lancer également leur propre système de passeport vaccinal.
Oui, tout à fait. Vous avez des compagnies aériennes qui elles-mêmes, pour relancer le tourisme, puisque la plupart des compagnies aériennes sont quand même des compagnies nationales, ce sont des fleurons pour chaque pays, hein, sa compagnie nationale, d'ailleurs qu'elle soit publique ou qu'elle soit privée, eh ben vous avez ces initiatives. Et c'est ça qui est intéressant, Christophe, c'est qu'encore une fois, on voit que pour pallier le manque de réactivité des institutions politiques ou des décisions politiques qui peuvent être lentes pour plein de raisons d'ailleurs qu'on a évoquées précédemment, ben vous avez des initiatives d'entreprises privées pour relancer le tourisme. Alors après, il faut voir aussi comment, d'un point de vue juridique pour l'Union européenne, ce passeport vaccinal peut-il se mettre en place, parce que, et c'est là où on est intéressant, c'est là où on voit aussi qu'encore une fois ça fait ressortir le meilleur et le pire de la construction européenne, c'est que au début on se disait que finalement le certificat d'immunisation ça pouvait être considéré comme une entrave à la liberté de circulation des personnes dans l'Union, c'est-à-dire que bah, vous n'avez pas le droit parce que ça met à mal Schengen et finalement ça met à mal le principe fondateur de l'Union européenne. C'est un débat qu'on avait eu ensemble, Christophe, dans des épisodes précédents quand on avait parlé de la fermeture des frontières décidées unilatéralement par certains pays. Et puis c'est un débat qu'on voit encore hein, aujourd'hui, quand la Belgique ferme ses frontières unilatéralement, quand la Moselle, quand la frontière entre la Moselle dans l'est de la France est fermée avec l'Allemagne et que ça crée un tas de problèmes parce que vous avez beaucoup de travailleurs transfrontaliers. Donc on voit, il y a encore ces débats autour de Schengen. Mais en même temps, et ça c'est un spécialiste qui s'appelle Vincent Couronne, qui est auteur d'une thèse sur les compétences des États membres de l'Union européenne, il dit que dans un contexte de crise sanitaire, ce certificat d'immunisation, ce passeport vaccinal, permettrait en réalité de faciliter la circulation de ceux qui sont vaccinés, immunisés ou testés négatifs. Et donc c'est là où on voit, c'est qu'il y a une interprétation qui dit, c'est une entrave à la liberté de circuler, d'avoir un passeport vaccinal, parce que si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas circuler. Et puis vous avez une autre interprétation qui est de dire, à l'heure actuelle où de toute façon les déplacements sont impossibles, où les frontières sont fermées, c'est le sésame, ce passeport vaccinal, pour se déplacer. Et donc, on voit, c'est intéressant parce qu'on voit que même sur ce débat-là, eh ben, vous avez finalement ce qui, des fois, bloque les avancées dans l'Union européenne quand on passe par trop de temps d'interprétation, de processus, etc.
Et pendant ce temps-là, l'Israël vaccine.
Et pendant ce temps-là, Israël vaccine. Sur la question, puisque là, on était sur cette question-là, sur la question du passeport vaccinal, en Israël, pour l'instant, c'est moins, si vous voulez, un passeport vaccinal que ce que d'ailleurs Emmanuel Macron a aussi évoqué dans une allocution fin février dernier, qui est la création d'un pass sanitaire. C'est-à-dire qu'au début, si vous voulez, ce passeport vaccinal, il va servir à réouvrir petit à petit votre vie publique à l'intérieur de vos frontières. C'est-à-dire pour aller au restaurant, pour aller voir des spectacles. Pour aller dans des salles de cinéma, vous allez devoir montrer patte blanche, pardon, montrer ce passeport vaccinal ou ce passe sanitaire. Ce qui ne veut pas dire que vous allez pouvoir l'utiliser pour voyager à l'étranger, parce que de toute façon, il va falloir une réciprocité. Mais en tout cas, à l'intérieur de vos propres frontières, en Israël, et puis évoqué encore une fois par Emmanuel Macron, cette idée d'un passe sanitaire qui va permettre petit à petit, bah, de réouvrir doucement votre vie sociale, culturelle. Économique. Donc voilà, mais ça, tout ça, ça met encore du temps. Et puis après, il y a évidemment plein de questions qui restent en suspens. Vous l'avez mentionné il y a quelques instants sur par rapport aux données, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer avec ces données? Est-ce que vous allez devoir, comment elles vont être exploitées ces données? Est-ce qu'elles vont pouvoir être exploitées? Sur la traçabilité, je crois que c'est quelque chose dont on parle plus beaucoup actuellement en Europe pour la simple et bonne raison que c'est compliqué quand vous avez trop de cas, c'est impossible de tracer. Ça marche en Australie quand vous voulez isoler les premiers cas, mais en France, par exemple, ça marche pas, c'est impossible de tracer. Mais comment est-ce que vous allez faire quand vous allez vacciner une partie majeure de votre population pour après justement faire ce traçage-là? Est-ce qu'on va avoir un meilleur traçage avec ce passeport vaccinal qu'on l'a eu au moment de l'application, je crois qu'elle s'appelait Stop Covid. On l'avait vu, hein, le nombre de personnes qui avait téléchargé l'application était ridicule et ne permettait pas une traçabilité efficace. Vous voyez, le passeport vaccinal, c'est un sésame, mais ça n'apporte pas encore toutes les réponses quant à la réouverture des vies à l'intérieur des frontières européennes et quant à surtout la possibilité aux ressortissants européens de voyager à l'intérieur de l'Europe et puis à l'extérieur de l'Europe, évidemment.
Absolument, affaire à suivre, Nathanaël.
Affaire à suivre, Christophe.